toujours à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue ou www.rfpp.net en streaming partout ailleurs. Et on vient d'écouter Dougar par Djelimadi Sissoko et Sidiki Diabaté. Et on va tout de suite écouter la première partie du débat. Défendre les migrants, c'est aussi soutenir une vision du monde et de la société avec Aminata Traoré, Baudouin, Elsa Fossillon et Dante Bassino, enregistré dimanche à la Fête de l'Humanité.
Je vais vous présenter d'abord les intervenants avant de leur donner la parole. Et puis, dans un second temps, vous pourrez vous aussi intervenir et rebondir sur telle ou telle parole qui vous ont interpellé et poser vos questions. Donc, je vais d'abord présenter notre dessinateur, Edmond Baudouin, qui, votre premier éditeur, disait « Je ne comprends pas très bien ce que vous faites, mais... vous cherchez, et donc j'ai envie de vous publier. » Et je trouve que, pour avoir lu la bande dessinée donc, sur la Roya ce matin, pour préparer le débat, eh bien, c'est exactement ça. Il y a une recherche d'humanité, et le livre n'est pas terminé. On a du mal à le finir, nous, lecteurs, et les dessinateurs aussi ont du mal à le finir. Donc, ça sera intéressant de vous entendre sur toutes ces rencontres qui ont émaillé votre séjour dans la Roya l'été dernier. Ensuite, Elsa Fossillon, donc, qui est députée des Hauts-de-Seine pour la première circonscription, députée communiste. Alors, pour vous présenter, moi j'ai lu la dernière, un article sur Libération qui est sorti ces derniers jours, où on explique que c'est votre positionnement sur la loi Asile-Immigration qui vous a vraiment distingué aux yeux des journalistes, parce qu'avant, ils vous prenaient pour une députée En Marche. Alors, ça m'a fortement interpellée. Je me suis dit qu'il fallait absolument que vous nous en parliez. Ensuite, il y a donc Dante Bassino, qui est adjoint à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Il est, à ce titre, chargé plus particulièrement des questions de logement. Mais au sein du Parti communiste français, il appartient à la commission qui est en charge des libertés et de l'immigration. Et il a, je crois, un certain nombre de propositions à faire et de points structurants qu'il aimerait aborder avec nous. Et aussi pour nous aider, je crois, à mieux défendre les migrants, puisque c'est le thème de ce débat. Enfin, Aminata Traoré est avec nous aussi. C'est notre invitée surprise. Elle a accepté de nous rejoindre vraiment au pied levé. On l'en remercie beaucoup. Aminata Traoré a été ministre de la Culture du Mali entre 1998 et 2000. Et pour la présenter, moi aussi, je prendrai des mots d'une dernière tribune ou d'une interview qu'elle a donnée il y a très peu de temps pour un journal du sud de la France, où elle explique que c'est le développement extractiviste que nous faisons subir à l'Afrique qui est une des principales raisons de la montée du vote d'extrême droite dans nos pays européens et occidentaux. Et donc, je pense que c'est sur ce point que j'aimerais qu'elle intervienne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Moi, j'avais très envie de proposer une intervention en deux points à nos intervenants, c'est-à-dire que dans un premier temps, eh bien, qu'ils parlent des points de lutte, des éléments scandaleux qui aujourd'hui sont notre quotidien, à nous militants, on l'est tous ici, dans notre appréhension de la question de l'accueil des migrants. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être faire des propositions, nous donner des pistes pour que nous puissions mieux les défendre. Pour commencer, donc, la question de la défense des migrants, eh bien, je vais donner la parole à Baudouin, de façon à ce qu'il puisse nous dire, lui, ce qu'il a observé, c'est-à-dire qui défend les migrants et comment ça se passe dans la vallée de la Roya.
Bon, ben, moi, je suis... La vallée de la Roya m'importe. Je suis né à Nice, je suis méditerranéen. D'ailleurs, depuis 4 ans, je n'ose plus me baigner dans la Méditerranée. Je m'y baigne plus. J'interdis pas de s'y baigner, mais moi, je m'y baigne plus. Et alors, cette frontière entre l'Italie et la France, il y a l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant, je suis allé dans cette vallée rencontrer les gens qui aident les réfugiés, les migrants, les arrivants. Et mon travail est de les rencontrer, de leur faire leur portrait, de leur donner le portrait et contre une réponse. Pourquoi vous faites cela? Parce que pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a des gens qui font ça, qui aident les migrants? Et c'est extraordinaire. Parce que il a fallu chaque fois que j'insiste pour dire mais pourquoi? Parce que la première réponse était tout simplement ben parce que. Pourquoi les gens aident les migrants? Ceux qui les aident, eh ben parce que. Et le terrible de notre monde, c'est que le parce que, il devient illégal, ou en tout cas mal vu, que ce soit parce que. L'autre, comme je voyage beaucoup grâce ou à cause du livre que nous avons fait dans la Roya, je vois beaucoup en France, je ne suis pas seulement à Nice, mais dans les Alpes, et puis dans l'Aquitaine, et puis en Bretagne, et je vois beaucoup de gens qui aident, qui sont parce que, qui font cela parce que. Et en vérité, il y en a bien plus que ce que l'on nous dit, en tout cas dans les radios, dans les médias, beaucoup de gens concernés. Mais ce n'est pas facile de les aider, parce que là, je répète, il faut être vieux à la retraite, avoir tout son temps libre, ou alors jeune et pas encore dans le travail. Mais quelqu'un qui travaille toute la journée, comment avoir une, deux ou une famille à la maison? C'est trop difficile. Et quand on est vieux, c'est difficile aussi, enfin dans mon sud à moi, c'est difficile parce qu'on se fait insulter par les gens de l'extrême droite. Alors il faut aider les migrants, il faut aussi aider, je crois, beaucoup, chaque fois qu'on peut, les gens qui aident. Parce que c'est véritablement quelque chose de pas toujours facile à aider quand on est insulté, comme on est dans le sud. L'autre, il y a tellement d'aborder, mais il faut que mes amis parlent, c'est que quand je voyage comme ça, je rencontre aussi le mal que notre politique, la politique européenne, mais la politique française fait aux gens et aux enfants. J'étais à Grenoble, je signais des livres, je dédicaçais des livres, c'était à la fin de l'hiver. Et une maman vient et me dit, vous faites un livre pour ma fille. Bon, je demande le prénom à la petite et je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je te dessine ? On était à la fin de l'hiver, la neige avait fondu, on avait trouvé une dame dans la rivière au-dessus de Briançon. Et la petite fille me dit, tu me dessines la dame dans la rivière. Le mal qu'on fait aux enfants aujourd'hui avec cela, le mal qu'on fait dans l'avenir, on ne le mesure pas ça. Hein, ça n'est pas mesurable et pourtant ça va se perpétrer. Ça va continuer, hein, ce mal qui est fait aux migrants, qui est fait aux Français, qui est fait à tout le monde, ça va se continuer. Pour l'instant, je m'arrête, je passe le micro à quelqu'un d'autre.
Alors, pour enchaîner peut-être, puisque tu es député, donc que tu as travaillé sur ce texte qui nous fait profondément mal, pratiquement autant qu'il en fait de mal à nos amis, est-ce que tu peux peut-être nous évoquer un peu les débats et ce qui t'a vraiment heurté, toi, dans ton travail, et puis peut-être comment maintenant agir avec cette loi, quoi, qui vraiment nous pose problème, évidemment.
Pour essayer d'être à peu près dans le même temps, parce que forcément parler de tout l'épisode de la loi en première et seconde lecture, il y a tellement de choses affreuses qui ont été dites que je pense que je pourrais en parler très 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 longtemps, mais ça ne nous ferait pas forcément beaucoup, beaucoup avancé. Je dois dire que on a tenté, avec toutes celles et ceux qui se sont battus pied à pied contre cette loi, à la fois évidemment d'éviter les principaux dangers, tout en sachant qu'il y avait, c'était souvent peine perdue, mais peut-être un peu naïvement, on se disait qu'au moins ce qu'on racontait pouvait être entendu par d'autres et que ça pouvait être important, et puis que ça pouvait peut-être soulager des gens qui pensaient comme nous, d'entendre quelques-uns qui disaient ça également. Et donc, évidemment, on a tenté voilà, d'éviter les horreurs. On a vu que le passage au Sénat faisait en sorte de rajouter des horreurs. Donc, quand c'est revenu à l'Assemblée, on a essayé d'éviter les horreurs qui s'étaient ajoutées aux horreurs. Bref, voilà, c'était un peu le portrait des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous passe les propos du ministre Gérard Collomb, qui évidemment rajoute à chaque fois un peu plus d'horreur également à l'horreur. Nous, ce qu'on a tenté de faire, je ne vais pas rentrer dans le technique, on a tenté en permanence déjà de démonter l'intox qui est faite autour des questions migratoires. Une intox sur des chiffres, une intox sur le nombre, sur le possible envahissement, l'invasion, la subversion culturelle. Donc ça, on a tenté de le démonter. Je le dis comme ça, non pas parce que nous voudrions y rentrer dans une logique qui consisterait à dire non, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si nombreux. Parce que moi, je suis heureuse que des gens arrivent. Moi, je suis en permanence heureuse que de pouvoir faire preuve de solidarité. Non, je ne suis pas heureuse qu'ils doivent partir. Mais on a besoin, dans le discours que nous envoyons, de pouvoir valoriser les parcours et les arrivées, et pas simplement de parler des départs. Donc on a essayé de évidemment, j'imagine que si vous êtes intéressé à ces questions et que vous êtes à la fête de l'UMA, savoir qu'il y a aujourd'hui en pourcentage moins de migrations dans le monde qu'il y en avait au début du siècle précédent, que les migrations sont majoritairement sud-sud et puis sud-nord. Tous les chiffres qui existent, à part en mettant la crise syrienne de 2015, le reste fait que les chiffres peuvent être relativement stables et que l'immigration est extrêmement finalement faible en France par rapport à d'autres pays. Ça, je crois que ce sont des choses que vous savez, mais il faut voir le matraquage idéologique qui est fait aujourd'hui dans ce pays. Je regardais une petite vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui la faisait, si c'était Brut ou d'autres, pour aller voir les Français et leur demander le nombre d'immigrés qu'il y avait en France. Les chiffres, souvent, par les Français, sont multipliés par 5 ou 6 par rapport à ce qui est la réalité aujourd'hui. Mais nous, on avait besoin, en tout cas, de s'opposer au terme d'invasion et de submersion qui est un terme utilisé par l'extrême droite depuis des décennies et repris par le gouvernement Macron aujourd'hui, alors même que certains avaient pu penser que sur les questions libérales, le gouvernement Macron était dans la pleine continuité, mais que sur cette question migratoire, il était peut-être un peu plus doux que les autres. Ils ont bien vu, effectivement, que c'était pas le cas. Et puis nous, on a tenté surtout de sortir de la logique de la peur, de cette logique qui est faite des identités figées, qui plaque sur des gens des réalités qui n'ont pas lieu. Et puis, on s'appuie beaucoup sur cette réalité qu'on essaye de dévoyer en France, c'est que si vous interrogez majoritairement les gens pour savoir s'ils sont pour l'accueil, ils disent oui. Ils sont majoritairement pour l'accueil et la solidarité. Et à chaque fois qu'il y a des villages qui sont, je dis des villages parce que c'est souvent le cas, ou des petites villes qui sont confrontées à des arrivées, la plupart du temps, les gens font parce qu'ils se rencontrent, parce que l'étranger n'est plus étranger, mais parce qu'il devient un proche, eh bien les gens font preuve de solidarité. Mais il y a un truc dont on se rend compte, c'est que dès que le sondage et la question s'orientent vers la menace en termes de sécurité et d'emploi, eh bien évidemment le chiffre baisse de manière brutale. La seule chose que ça veut dire, c'est que la bataille idéologique, elle a été remportée du côté de celles et ceux qui veulent faire cet amalgame entre insécurité, chômage et immigration. Donc s'il y a une chose que je veux dire et qu'on a tenté de faire pendant la bataille sur la loi asile-immigration, c'était de prendre l'offensive sur la solidarité, de l'accueil, de la fraternité, de la richesse que c'est. Et ça, ça me semble important à la fois parce qu'on constate que la bataille idéologique, eh ben, elle est gagnée par celles et ceux qui veulent faire de la peur et qui veulent en permanence agiter l'épouvantail, comme à la présidentielle et aux européennes, d'un duel, Macron-Le Pen, qui arrange aussi bien l'un que l'autre. Et donc, nous, il nous faut aussi reprendre l'offensive, parce que je crois qu'à gauche, eh bien, nous avons été en recul sur ces questions, et que si elle n'était pas une bataille prioritaire, elle était souvent à la fois une bataille annexe et une bataille qui n'était pas inclue dans une vision du monde, une vision du monde solidaire, une vision du monde écologiste, une vision du monde pour l'égalité homme-femme, et que tout ça fait un tout qu'on avait peut-être un peu mis de côté.
Merci beaucoup. Alors, la cheville est toute trouvée, puisque Dante va maintenant nous dire, lui, quelle proposition concrète il a, et vous avez collectivement au Parti communiste, pour nous aider à changer le discours et à faire évoluer justement les mentalités, puisque on a un gros travail à fournir de ce point de vue-là.
Oui, effectivement, sur ces questions de loi, il y a quelque chose qui est absolument terrible, c'est que ces lois, elles valident les thèses de l'extrême droite, elles valident les thèses de l'invasion. C'est pas justement, comme voudraient nous faire croire certains, une réponse pour justement contrôler un peu la montée du Front National, du racisme, etc. Au contraire, ça valide ces thèses, ça les encourage et ça ne fait que faire monter le Front National. Puisque des gouvernements dits démocratiques font des lois répressives à ce point-là, eh ben, il n'y a pas de raison, alors c'est que c'est juste, c'est que c'est normal de taper sur les migrants. Donc ça, c'est assez catastrophique. Ce qui est terrible, c'est que ce discours commence à gagner à gauche. On voit qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques de gauche qui commencent à avoir un discours limite. En Allemagne, il y a une gauche dite anti-migrant quand même qui vient de se créer. Et là, il faut qu'on se pose la question. Ça veut dire qu'on a plus d'intérêts en commun, par exemple, avec Bettencourt qu'avec le travailleur migrant qui est à côté de nous. Ah, je crois qu'il y a une erreur. Il faut vraiment revenir sur une lecture de classe sur ces questions-là et ne pas se laisser absorber par ces discours. On nous a dit à une époque, je pense que tout le monde connaît cette phrase, hein, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre une petite partie. Évidemment, que la phrase soit coupée ou pas, elle est à rejeter. Elle nous entraîne sur un terrain humanitaire, judéo-chrétien qui faut écarter. Parce que c'est bien une lecture politique et une lecture de classe qu'il faut avoir. La question des chiffres, je vais essayer de ne pas vous en donner trop, mais effectivement, Elsa a raison. On est obligé de revenir dessus. Il y a 214 millions de migrants internationaux. Il y en a seulement un tiers qui va de pays pauvres vers des pays riches, du sud vers le nord. Au niveau des réfugiés, selon le HCR, il y a entre 75 et 93% des réfugiés qui restent dans leur zone, c'est-à-dire qui vont dans le pays d'à côté. Les pays qui accueillent le plus de réfugiés, aujourd'hui, c'est la Turquie, c'est le Liban, c'est l'Iran, c'est la République démocratique du Congo. Donc on voit qu'on n'est quand même pas du tout dans la situation qu'on nous décrit régulièrement. On a en France un solde migratoire qui est, selon les années, entre 30 et 100 000 personnes. Sur ces 30 et 100 000 personnes, il y a des entrées et des sorties, hein, parce que souvent, le Front National et d'autres n'arrêtent pas de nous parler des entrées, en nous disant qu'il y a des 200, 300 000 personnes, 400 000 personnes qui rentrent. Oui, mais sauf qu'il y en a 300 000 qui sortent aussi tous les ans. Et sur les 300 000 qui rentrent, il faut savoir qu'il y a en moyenne 100 à 110 000 personnes qui sont des personnes qui étaient nées en France et qui étaient parties habiter à l'étranger, ou des Français qui sont nés à l'étranger. Donc en fait, sur l'invasion, effectivement, on n'y est pas du tout. Ça nous donne un taux, ça c'est intéressant aussi, intéressant à avoir, un taux d'étrangers en France, excusez-moi, qui est stable depuis la fin des années 60. On ne progresse pas, on est aux alentours de 6%, c'est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. C'est un taux qu'on avait déjà dans les années 20 et 30. Donc en fait, effectivement, on est sur une stabilité. On a des pays qui, comme l'Allemagne, ont 10% d'étrangers. Ils n'ont pas l'air de s'en porter particulièrement mal. L'Espagne, 12,3%. L'Italie, 10,9%. Les Émirats arabes unis, 88,5% d'étrangers. Bah, je ne sais pas, hein, il faut voir. Il faut voir si tout ça pose des soucis, je ne sais pas. J'essaie de passer rapidement, mais pour arriver sur les questions de solutions, il y a une chose qu'il faut noter, en tout cas, je crois, c'est qu'il n'y a aucun lien, moi j'en ai jamais vu aucun, mais peut-être que certains pourront m'expliquer, aucun lien entre les politiques répressives qu'on fait et une quelconque diminution du nombre d'entrées. Quand on fait des politiques sur la sécurité routière, on est à peu près capable de voir qu'au fur et à mesure des différentes mesures mises en place, il y a une baisse du nombre de morts, alors même si c'est multifactoriel, on voit quand même qu'il y a des effets. Là, non, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire qu'en fait, les migrants continuent de venir, quelle que soit la politique qu'on mène. Donc à un moment, il faut regarder les choses en face. On ne changera pas ce fait social que des personnes se déplacent, en tout cas, certainement pas en faisant des politiques répressives. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelques endroits où ça commence à bouger, et effectivement, ces politiques répressives commencent à poser question. On avait l'ONU qui, en 2009, a fait un rapport qui rappelle quand même que la migration est un processus normal et ordinaire, que pouvoir choisir son lieu de vie constitue un élément essentiel de la liberté. Alors bon, malheureusement, un peu après, ce rapport se perd un petit peu, il a du mal à aller jusqu'au bout de sa démarche. Il démontre quand même que les pauvres migrent très peu. Ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est bête, mais c'est extrêmement cher de migrer, en fait. Et en général, plus vous êtes pauvre, plus vous migrez vers un pays pauvre. C'est la réalité d'un certain nombre d'études qui a été prouvée. Donc on n'est pas envahi par la misère du monde, pas du tout. D'ailleurs, un certain nombre de migrants sont... Il y avait une étude aussi sur le niveau de qualification des migrants qui était plus élevé en moyenne que le niveau français. On nous parle de frontières fermées. Moi, il y a quand même une idée là-dessus sur laquelle je voudrais insister. Les frontières, on peut les fermer comme on veut, mais on ne les ferme pas à l'entrée, je viens de le dire. On continue d'avoir un nombre d'arrivées qui ne change pas en fonction de ces politiques, hein, qui change plutôt en fonction des sursauts de l'économie, des problèmes. On sait qu'avec la crise en 2008, il y a eu une baisse plutôt du nombre de migrations, mais c'est normal, moins d'argent pour partir, et puis moins d'opportunités à l'arrivée, donc moins de migrants. Par contre, toutes ces politiques, ce qu'elles font, outre évidemment les catastrophes humaines dont on a parlé, qui sont terribles, dont on entend beaucoup trop souvent, qui existent beaucoup trop malheureusement, mais elles sont un frein à la sortie. C'est-à-dire que quand un migrant arrive, il a mis tellement d'argent, tellement d'efforts, tellement d'espoir dans sa famille, et en plus, pour rester, pour espérer avoir une situation qui se stabilise un peu, il faut qu'il reste. Il ne peut pas repartir au bout d'un an, deux ans, en se disant bah, « ça n'a pas marché, j'ai pas d'opportunité », ou alors au contraire, « ça a marché un peu, bah, j'aimerais bien retourner dans mon pays, parce que quand même, c'est là qu'il y a ma famille, réinvestir ce que j'ai gagné, les compétences que j'ai acquises, l'argent, et ce qui profiterait à tout le monde bah, ». Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne peut pas revenir. Donc les frontières, la fermeture des frontières, en fait, c'est une fermeture des frontières à la sortie. C'est une fermeture qui sert à maintenir les gens dans une situation de non-droit et qui sert à ce qu'on puisse les exploiter. Il y a un point qui est intéressant, parce qu'on nous dit vous ne pouvez pas ouvrir les frontières, vous allez vous faire envahir. Bon, déjà, je crois que je viens de démontrer que, en réalité, quelles que soient les politiques qu'on fait, le nombre d'arrivées ne change pas. Et on nous avait dit, avec l'Union européenne, non, il y a un problème, la Pologne et la Roumanie, on ne peut pas ouvrir les frontières, c'est pas possible, parce qu'il va y avoir plein de Polonais, plein de Roumains, demain, c'est des dizaines de millions, il y avait des rapports, des dizaines de millions de Polonais, Roumains, qui vont déferler en France et en Allemagne, on ne peut pas ouvrir les frontières. Bon, au bout d'un moment, les accords Schengen ont fini par s'appliquer, et les frontières sont ouvertes avec l'Allemagne et la Pologne, donc comme vous pouvez le voir autour de vous, vous êtes entourés de Roumains et de Polonais, n'est-ce pas? Voilà, donc... Évidemment, on peut ouvrir les frontières, il n'y aura pas de flots qui vont arriver comme ça, nous envahir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la seule solution qui est raisonnable, c'est la liberté de circulation, la liberté d'installation et la liberté de travail, sans aucune limitation. La fin des détentions administratives, qui sont absolument scandaleuses, le rétablissement plein de l'asile, et ce rétablissement de plein de l'asile, je souligne qu'il nécessite la liberté de circulation, parce que l'asile, par définition, vous êtes parti de chez vous très vite, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, pour aller vous réfugier dans un pays. Donc vous n'avez pas eu le temps de demander un visa. Donc, l'asile, pour être établi, nécessite la liberté de circulation pleine et intégrale. Je crois qu'on a intérêt à ne rien céder dans ce débat, c'est-à-dire à ne pas dire « Oui, alors il faut quand même qu'on contrôle l'immigration parce que bon, on doit faire un peu plus, un peu mieux, un peu plus humain. » Parce qu'à partir du moment où on commence à dire ça, ça veut dire que les politiques, tous ceux qui portent cette idée que l'immigration est un problème, on leur donne raison. Donc c'est pas vrai, il faut tenir le bout, l'immigration n'est pas un problème, il faut qu'on se décrispe avec ça, on ne va pas être envahi, on peut tout à fait ouvrir nos frontières, ça ne changera rien, au contraire, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner, les pays aussi d'origine des migrants ont beaucoup plus à gagner avec cette ouverture des frontières, donc ne soyons pas crispés, et à ceux qui nous disent, mais regardez, y a dans la rue là aujourd'hui à Paris, vous voyez bien qu'on peut pas. Mais ça renvoie, c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil, c'est une crise de l'emploi, mais qui touche les Français comme les étrangers, avec les étrangers d'ailleurs encore plus. C'est une crise du logement, mais du logement cher. C'est-à-dire qu'on a assez de logements, par exemple, à Paris, pour loger tout le monde, y compris les migrants. C'est pas un problème, ça. Simplement, on a beaucoup d'immeubles vides, on a des logements vides, on a des meublés touristiques, on a des résidences secondaires d'étrangers qui sont jamais venus, de riches étrangers qui viennent une semaine par an. Si tous ces logements-là, on les remet sur la location normale, mais on n'a aucun souci pour loger tout le monde. Voilà. Donc c'est ça les crises qu'on a. C'est pas une crise migratoire.
Merci beaucoup. On va maintenant se tourner vers les pays de départ. Et le Mali en est un. Aminata Traoré, vous avez, je crois, une expertise totalement particulière et intéressante de cette question. Je voudrais que vous interveniez, vous, sur bien comment défendre les migrants en travaillant sur justement les pays de départ.
Merci. Moi, je crois que il y a tellement de malentendus. Si les Français savaient, si les Français savaient que c'est la France qui a besoin des pays d'origine des migrants, si l'État français disait la vérité aux Français sur la nature de cette dépendance, faire savoir, je crois que l'extrême droite va se calmer lorsqu'elle saura que la France n'a pas d'uranium, n'a pas de pétrole et qu'elle ne peut pas être compétitive dans le contexte actuel, sans les immenses richesses du continent noir. La France est en compétition, elle est en compétition avec des puissances qui ont les ressources énergétiques. Donc la sécurité énergétique de la France, la compétitivité de la France, la croissance et l'emploi en France dépend des pays de ces pauvres bougres dont la France ne veut pas. Et nous, on n'a pas de complexe à se faire. Moi, je suis ici, je suis venu à cette fête de l'UMA pour dire que vous êtes à la veille d'élections européennes qui constituent un tournant important pour vous, mais pour nous aussi. Moi, je voudrais que, quand vous me dites comment les défendre, ça passe nécessairement. L'offensive dont vous parlez passe par la déconstruction du discours dominant sur l'Afrique. Il faut déconstruire le discours sur l'Afrique. Il faut changer de regard sur l'Afrique. Il faut savoir que aucun être humain ne part de gaieté de cœur en sachant que tu risques ta vie. Il y en a qui n'ont jamais vu de mer. Moi, dans mon pays, on est un pays enclavé sahélien. Les jeunes, il y a des jeunes qui n'ont jamais vu la mer. Tu ne peux pas, pour la première fois, te trouver devant cette masse d'eau. Tu ne vois même pas de limite, mais monter dans ces embarcations au risque de ta vie. Il n'y a pas une volonté de partir. Il n'y a pas une volonté d'envahir. Mais les gens sont chassés de leur pays. On est chassés de nos pays au terme de plusieurs décennies de structuration au nom de la compétition. On nous a demandé, nous aussi, d'être dans le marché. Un marché prétendument libre, ouvert et compétitif. Alors que c'est une histoire d'arnaque. C'est l'arnaque, ce système. On nous vole le coton, le café, Le cacao, les prix des matières premières, ça a été le premier problème posé aux Africains. Alors quand j'entends Juncker parler dans l'état de l'Union, prétendre qu'ils vont développer l'Afrique et que la solution maintenant c'est le libre-échange de continent à continent, je me demande s'il faut en rire ou en pleurer. Parce qu'il y a, de libre-échange, d'échange gagnant-gagnant possible qu'entre des égaux. On n'est pas entre égaux. Le problème dans cette migration, appelons un chat un chat. Ce qui gêne, c'est pas le fait que tant de gens viennent, mais c'est parce que ceux qui viennent sont noirs. Parce que ceux qui viennent, on considère qu'on est supérieur. Vos institutions sont apparemment supérieures aux nôtres. Vos états sont supérieurs. Vous savez pour nous. Donc vous nous avez développés en vain. Mais la seule chose qu'on trouve à nous dire, c'est que nous sommes... Sarkozy est venu nous dire qu'on n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, c'est sur cette base-là qu'on est en train de négocier. Moi, je crois que moins d'arrogance, moins d'ignorance de la part de l'Occident lui fera beaucoup de bien.
Vous êtes toujours à l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, en streaming partout ailleurs. Et on vient d'écouter la première partie du débat. Défendre les migrants, c'est aussi soutenir une vision du monde et de la société, avec Aminata Traoré, Baudouin, Elsa Foussillon et Dan Bassino, enregistré dimanche à la fête de l'UMA. On écoutera la seconde partie avec les interventions du public et les discussions la seconde prochaine. Et avant de procéder à notre agenda et de retrouver les oreilles loin du front, excellente émission, eh bien je propose qu'on écoute Un gamin de Zoufri Maracas.
Je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins,
6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Triste représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin.
Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs.